Aujourd'hui, lundi 22 mai, nous allons consacrer ce magazine aux prisonniers et prisonnières palestiniens. Magazine évidemment centré sur la longue lutte en cours actuellement dans les prisons d'Israël essentiellement, hein, puisque les prisonniers palestiniens sont pour la plupart enfermés dans les prisons israéliennes. Longue lutte qui prend la forme d'une grève de la faim qui dure aujourd'hui depuis exactement 36 jours. Elle a été entamée, cette grève de la faim, le 17 avril, qui est la journée internationale pour la libération des prisonniers palestiniens. 36 jours donc des centaines et des centaines de prisonniers sont en grève de la faim. Alors entre 1000 et 1500 selon les sources, Israël avance plutôt un chiffre autour de 800, un peu au-dessus de 800, ce qui est déjà un chiffre considérable, ce qui montre bien que le chiffre de 1000 à 1500 est certainement assez juste. D'autant plus qu'on a appris ce matin via le comité de presse qui suit et qui soutient cette grève de la faim des prisonniers palestiniens que 200 nouveaux prisonniers auraient rejoint cette grève durant le week-end, notamment dans les prisons de Nefa et de Rimmon. Donc un mouvement extrêmement important, très suivi, très important pour toute la vie des Palestiniens et des Palestiniennes. Alors évidemment, au bout de 36 jours, une des premières préoccupations, la grande préoccupation, c'est l'état de santé des personnes qui sont en grève de la faim actuellement. Préoccupation d'autant plus forte que l'État d'Israël entretient un certain flou. Alors c'est entre le blackout et la désinformation, mais enfin c'est extrêmement difficile d'avoir des informations précises, exactes. Au niveau de la santé, évidemment, je vais vous lire ce qu'en dit Zeradzion Ishal, qui est un médecin de la Croix-Rouge internationale, une Croix-Rouge internationale extrêmement discrète, hein, sur le sujet pour le moment, qui ne fait quasiment pas de déclarations publiques. Donc on sent bien là la difficulté, hein, qu'il y a à aller contre l'État d'Israël et la volonté de ces grands organismes internationaux de ne pas aller contre cette volonté de l'État d'Israël. Mais tout de même, ce médecin de la Croix-Rouge internationale, qui est l'un des rares étrangers qui a eu accès à certains détenus, hein, en grève de la faim, et un des rares qui a parlé un petit peu, non pas du fond politique, mais un peu de leur état de santé, précise qu'évidemment, au bout de quelques jours de grève de la faim, le corps commence à consommer ses propres réserves de graisse, et après 3 ou 4 semaines, les grévistes auraient perdu au moins environ 10% de leur poids. Et après un mois, les risques pour la santé augmentent considérablement, la perte de poids pouvant atteindre 20% et nécessiter l'hospitalisation. La graisse étant épuisée, le corps va finir par manger ses propres protéines, c'est-à-dire les muscles et plus tard les organes, tout en essayant de préserver le cerveau, le foie, les reins et le cœur. Alors, je vais vous lire le communiqué de Samidoun, qui est un réseau de soutien et de solidarité avec les prisonniers palestiniens. C'est un communiqué qui date du 17 mai, c'est-à-dire le jour, hein, pile poil des un mois du déclenchement de cette grève de la faim. Depuis le début de la grève de la faim, les prisonniers palestiniens ont été confrontés à une dure répression pour leur participation à la grève. Ils sont souvent transférés de prison en prison et leurs affaires personnelles sont confisquées. Même le sel sur lequel les grévistes comptent avec l'eau pour préserver leur vie et leur santé tant qu'ils font la grève a été confisqué à de nombreux prisonniers. On leur a refusé les visites familiales. Le leader du Fatah, Marwan Barghouti, qui est l'un des leaders également de ce mouvement précis, hein, de cette grève de la faim, même un des initiateurs de cette grève de la faim. Le secrétaire général du FPLP également, Ahmad Sadat, le prisonnier qui a passé le plus de temps en prison. Nael Barghouti, Karim Younis ainsi que des dizaines d'autres ont été placés à l'isolement, tous pour essayer de briser leur grève. Les avocats n'ont pu rendre visite qu'à 39 prisonniers en grève de la faim depuis le début, en dépit d'une décision de la Cour suprême d'Israël. Et là, il nous parle donc, le communiqué de Samidoun continue, et nous parle justement de ce problème spécifique de la santé des prisonniers qui est en déclin, on s'en doute. Beaucoup plus de cas de grande faiblesse sont rapportés, ainsi que des vomissures de sang, de vision brouillée et de fortes pertes de poids de 20 kg et plus. 76 prisonniers de la prison d'Ofer ont été transférés à l'hôpital dit hôpital de campagne de Hadarim. Les prisonniers en grève ont dénoncé ces hôpitaux de campagne comme des supercheries où aucun soin médical véritable n'est prodigué et où, au contraire, les grévistes sont incités à s'alimenter en échange de traitements médicaux, l'intention étant de maintenir les grévistes de la faim hors des hôpitaux civils et hors de vue. L'un des grévistes de la faim, Hafez Kunduz, a été transporté à Soroka souffrant d'hémorragie interne. Donc on voit bien la réponse de l'État d'Israël, c'est évidemment d'essayer de casser cette grève de la faim à tout prix. Il y a quelques figures de la droite israélienne au pouvoir qui parlent ouvertement du cas des grévistes de la faim irlandais sous Margaret Thatcher, grève de la faim qui s'était terminée par le décès d'un certain nombre, par Bobby Sands, mais d'un certain nombre d'autres militants de l'Irlande. À l'époque, elle avait cassé comme ça le mouvement, Margaret Thatcher avait cassé comme ça le mouvement de la grève de la faim en refusant de négocier, en refusant de céder à la moindre des revendications. Et bien là, c'est un modèle qui existe dans la tête des dirigeants, en tout cas de certains dirigeants israéliens, ça c'est certain. Et alors, ils ont une arme, on en a déjà parlé sur cette antenne, une arme assez redoutable, et c'est un peu dit là dans le bout de communiqué que je viens de vous lire, c'est qu'ils ont une loi, la loi du 30 juillet 2015, qui autorise l'alimentation forcée des grévistes de la faim, à condition que celle-ci soit effectuée par des membres du personnel médical. Alors, l'ordre des médecins de l'État hébreu n'a pas l'air de vouloir pour le moment participer à cette mesure coercitive, mais l'État israélien envisage très sérieusement, et l'a peut-être déjà fait, de louer les services de médecins étrangers moins scrupuleux sur l'éthique professionnelle et qu'on paierait grassement pour venir donc faire ce gavage forcé. C'est peut-être ce qui peut se passer dans ce camp de fortune autour de la prison d'Ofer. Il y a un autre lieu aussi qui ressort, c'est la prison de Ketziot, un ancien camp de prisonniers établi à la hâte durant la première intifada et qui est transformé depuis en établissement de haute sécurité. Et là aussi, un dispensaire démontable a été installé et c'est peut-être là que les fortes têtes pourraient être amenées à être gavées comme des oies. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Quoi vous dire d'autre ? Bah peut-être un mot quand même sur les revendications de cette grève de la faim. Alors évidemment des meilleures conditions de détention et notamment des meilleurs services médicaux, parce qu'évidemment les services médicaux sont extrêmement mauvais, mais pas seulement pendant les grèves de la faim. Il y a également l'abandon de la détention administrative, ce régime de la détention administrative qui est hérité de l'époque coloniale et qui permet de détenir des centaines de prisonniers palestiniens sans procès. Il y a également en revendication l'augmentation du nombre de visites qui sont réduites à une par mois depuis plus d'un an et encore une par mois quand les familles arrivent jusqu'à destination, puisque je le rappelle, la plupart des prisons sont en Israël et donc extrêmement difficile d'accès pour les familles des palestiniennes. Il y a également l'accès aux livres ou l'accès à des téléphones publics, bref, une espèce d'amélioration un petit peu des conditions de détention extrêmement dures que subissent les prisonniers palestiniens. Pour le moment, l'État d'Israël, évidemment, il y a une fin de non-recevoir, on l'a dit, ils essaient de casser le mouvement. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure, qui est un membre du Likoud, il s'appelle Gilad Erdan, il dit depuis le début qu'il ne veut pas négocier avec, je le cite, des terroristes et les meurtriers emprisonnés. Bon, il semblerait quand même, selon d'autres sources, que certaines négociations aient lieu en sous-main, mais alors avec qui ? Ça c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment, ce n'est pas un front uni, la Palestine, même si les prisonniers palestiniens sont quand même un des sujets et un des corps de la société palestinienne qui est le plus à même d'amener un front uni. C'est à peu près le seul endroit où on peut retrouver des gens qui travaillent ensemble, qu'ils soient Hamas, qu'ils soient Fatah, qu'ils soient FPP. Alors, pour le moment, la grève dure et ce n'est pas rassurant, évidemment, pour l'état de santé des prisonniers palestiniens et pour la suite. Le rôle de l'autorité palestinienne, évidemment, il est extrêmement trouble, comme toujours. C'est quand même, l'autorité palestinienne est de plus en plus dans une démarche de collaboration avec le régime colonial israélien. Voilà ce qu'en dit également toujours ce même communiqué de Samidoun sorti le 17 mai. Tandis que la protestation se développe, la police de l'autorité palestinienne a attaqué et dispersé des manifestations, on imagine nombreuses, manifestations de soutien aux prisonniers. C'est arrivé à maintes reprises au cours des jours précédents, en particulier face à l'accroissement de la désobéissance civile par le blocage de routes comme exigence des Palestiniens pour leurs prisonniers. Mardi, la police de l'autorité palestinienne a frappé des manifestants, donc il s'agit de mardi dernier, dont des étudiants qui marchaient en solidarité avec les prisonniers en direction du checkpoint de Beit El en signe de désobéissance civile, on l'a compris. Dans le même temps, l'autorité palestinienne a refusé de mettre fin à la coordination sécuritaire qu'elle entretient avec l'occupation israélienne en dépit de la revendication des prisonniers et du comité national pour qu'elles soutiennent officiellement et dans les faits cette grève de la faim. Il a été rapporté par plusieurs représentants de haut rang de la sécurité de l'autorité palestinienne que des réunions ont eu lieu avec les représentants israéliens pour discuter de comment mettre fin à la grève. Et les prisonniers ont insisté sur le fait que leurs dirigeants désignés sont donc les seuls à pouvoir négocier avec les forces israéliennes au nom des grévistes. Voilà. Donc on comprend bien que si des négociations ont lieu et qu'elles ont lieu avec l'autorité palestinienne, elles auront certainement peu de poids. D'abord, elles amèneront peu d'avancées, ça c'est certain, et elles auront peu de poids pour mettre fin à cette grève. Et on sent que les prisonniers palestiniens sont extrêmement déterminés et prêts à aller jusqu'au bout. Alors, il y a déjà eu deux rassemblements à Toulouse en solidarité. Le prochain, c'est ce soir, hein, donc ce soir, lundi 22 mai, à 18h, au métro Jean Jaurès. Il y en a également eu dans d'autres villes de France, et notamment à Paris. Et on va pouvoir s'écouter deux interviews qui ont été réalisées lors du rassemblement du 5 mai, deux interviews réalisées par l'émission L'actualité des luttes, émission de la radio parisienne Fréquence Paris Pluriel, sur le 106.3 de la bande FM à Paris. Et on va commencer par la première, c'est l'interview de Alaa Al-Sharbati, qui est le fils d'Eman Al-Sharbati, prisonnier politique en prison depuis 18 ans. Il a été condamné à une peine de 100 ans. Il est placé en cellule d'isolement actuellement et il a lui aussi entamé la grève de la faim. Il l'a entamé, il fait partie des grèves de la faim quasiment depuis le début. On va écouter ce que nous disait son fils lors de ce rassemblement parisien.
Eh bien, bonjour, on est sur la place de la République. Aujourd'hui, on est samedi 6 mai. Et hormis le fait qu'il y a un petit truc genre nuit debout, ce qui explique un petit peu le bruit qu'il y a, il y avait aussi un rassemblement concernant la situation des prisonniers politiques palestiniens incarcérés en Israël. Donc, est-ce que tu peux nous dire... Alors d'abord, est-ce que je te laisse te présenter ?
Ouais, bonjour, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Moi, je m'appelle Alain, je suis avocat, je suis palestinien, je viens de Jérusalem. Je suis le fils de prisonnier politique Eman Al-Sharbati. Mon père, ça fait 20 ans qu'il est en prison. Et il est condamné à 100 ans de prison ferme.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Parce qu'il a fait des manifestations à Jérusalem. Il a mené des actions de résistance pour la liberté de la peuple palestinien.
D'accord. En ce moment, au moment où nous sommes en train de faire cette interview, il y a une grève de la faim dure dans les prisons de la part des prisonniers politiques palestiniens. Est-ce que tu peux nous dire combien ils sont ? Pourquoi ? Pourquoi ils font aujourd'hui cette grève de la faim ?
Madame, en prison d'Israël, il y a 7000 prisonniers politiques palestiniens. Il y a des 500 enfants qui sont moins de 14 ans. Il y a des 62 femmes. Il y a des 14 parlementaires palestiniens qui sont en prison d'Israël. En Israël, depuis l'année 1967, il y a presque 1 million de Palestiniens qui sont passés par l'emprisonnement d'Israël. Ça veut dire que 35% de la population palestinienne qui sont passés par l'emprisonnement d'Israël. Si on va appliquer ça en France, ça veut dire 20 millions de Françaises qui vont passer par la prison de l'occupation. Alors mon père, c'est un des prisonniers politiques palestiniens. Comme Marwan El-Barghouti, c'est notre Mandela à nous, qui ça fait 15 ans qu'il est en prison. Il est condamné à 500 années de prison ferme. Alors madame, les questions de prisonniers politiques palestiniens, c'est un contrôle central parce que selon le droit international, les prisonniers politiques palestiniens sont des prisonniers de la liberté, les prisonniers de mouvement de libération, c'est selon la loi internationale, c'est selon la convention, la 4e convention de Genève.
Est-ce qu'ils sont considérés comme des prisonniers politiques aujourd'hui dans les prisons ou sont-ils en train de demander leur statut à travers cette grève de la faim ?
Madame, monsieur, mon père, il est en prison, en grève de la faim, comme 1700 prisonniers politiques palestiniens. Aujourd'hui, ça fait 20 jours qu'ils sont dans un grand grève de la faim qui est super dur. Il prend juste le lot avec les salles pour être vivant. Et ça fait 20 jours qu'ils sont debout le 17 avril dans cette grève de la faim. Et les prisonniers politiques, ils demandent juste appliquer le droit international, appliquer la 4e convention de Genève qui écrit tous leurs droits dans cette convention, qu'Israël même il a signé cette convention, mais elle est violée, cette convention, toujours avec la prisonnière politique palestinienne. Elle ne respecte pas cette convention. Alors mon père, il est en grève de la faim, ça fait 20 jours, juste pour demander son droit de vivre. visite familiale qui est écrit dans la loi israélienne qu'un prisonnier politique palestinien il peut voir sa famille 2 fois par mois. Mais moi, ça fait chaque année, j'ai vu mon père 1 fois par an. Israël, elle m'a autorisé faire un visite par la loi, un visite par an. Alors mon père, ça fait 20 jours qu'il est faim pour leurs droits, que moi, je lui visite 2 fois par mois. Mon père, il est en grève de la faim, madame et messieurs, juste pour parler au téléphone. Il demande de mettre des cabinets téléphoniques que les prisonniers politiques pourront parler avec leur famille et leurs proches 5 minutes par jour. Vous comprenez, ça veut dire quoi? Ça fait 20 jours, t'es faim, juste pour un appel téléphonique avec ta famille. Mon père, il est dans un grève de la faim, madame et messieurs, pour regarder une chaîne de télé, parce qu'Israël, il interdit de regarder des chaînes de télé arabes. Alors mon père, il est faim, ça fait 20 jours pour regarder la télé. C'est ça. Mon père, il demande d'autoriser l'entrée des livres, des journaux. Mon père, il demande dans cette rêve de la faim pour permettre à lui continuer leur étude à l'université officiellement. Mon père, il est en grève de la faim juste pour passer l'examen de Pâques officiellement. Alors, tout ce qu'il demande, mon père, c'est appliquer la loi, appliquer le droit international, les 4e conventions. C'est des choses de l'humanité. C'est ça qu'il demande, mon père. C'est ça pour lui. Ça fait 20 jours qu'il est faim. Pour appliquer la loi internationale.
Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'actuellement, les prisonniers politiques palestiniens n'ont pas le droit à la lecture, recevoir les journaux de leur choix, n'ont pas accès à la télévision, ne peuvent pas avoir de parloir avec leurs proches, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas avoir d'activité. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et à travers cette grève de la faim, ils ne demandent tout simplement que l'application des droits qui leur sont dus en tant que prisonniers.
Parfait. Madame, mon père, elle demande pas de la loi d'Israël. Mon père, elle demande une seule chose. L'humanité, elle a signé la 4e convention de Genève pour appliquer cette convention sur la prisonnière de guerre, sur la prisonnière de liberté. Alors, tout ce que le droit de mon père, c'est écrit dans la loi internationale, dans le droit international de convention, qui a des 180 États dans le monde entier qui sont signés ça. Et Israël aussi, il a signé ça. Alors mon père, elle demande de l'humanité pour respecter le droit international. Et mon père, elle demande leurs droits qui écrit dans cette convention. Mon père, elle demande juste une visite. Madame, vous comprenez? Parce que moi, j'ai le droit de visiter mon père 1 fois par an, 45 minutes. Alors mon père, ça fait 20 jours qu'il est faim pour faire autoriser lui, faire les visites 2 fois. Comment c'est écrit en droit international, même en loi israélienne, madame. Mais t'es avec un gouvernement de Netanyahou qui refuse tout ça, il viole même la loi israélienne, il viole même le droit international, ils sont hors droit international, ils sont hors tout.
Là, les prisonniers palestiniens sont en train de faire une grève dure, c'est-à-dire qui dure déjà depuis 20 jours, tu le disais, et qui risque de durer. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il y a des manifestations? Comment s'organise la solidarité déjà dans un premier temps à l'intérieur du territoire palestinien et israélien?
À l'intérieur de la territoire, il y a toujours des manifestations. Avant-hier, il y a des manifestations, il y a 60 000 personnes qui sont sorties dans la rue. Et il y a une solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens parce que c'est une question centrale dans la cause palestinienne. Alors, toute la Palestine, elle bouge, même en Israël, même des Israéliens pour la droite de l'homme et de la gauche israélienne, ils sont en train de bouger à Tel Aviv même. Alors, tout le monde entier, ils sont avec les prisonniers politiques. Madame, c'est une histoire, l'histoire de mon père. Et les prisonniers politiques palestiniens, c'est la même histoire que l'Afrique du Sud, c'est la même histoire qu'en Irlande, c'est la même histoire que Mandela. Mandela, quand il a fait les grèves de la faim pour l'humanité, elle regarde l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe avec le système d'apartheid. Et aujourd'hui, madame, il y a un nouveau système d'apartheid, c'est en Palestine, madame. Alors mon père et les prisonniers politiques, leur tête, Marwan Barghouti, elle fait cette grève de la faim pour l'humanité, elles savent qu'il y a des résistances, on résiste avec les faims. On passe les messages pour toute l'humanité. Pour comprendre, en Palestine, il y a des injustices qui passent là-bas. Et nous, on va juste la paix et la justice, madame. On va la paix. Donc, moi, je suis palestinien, je vous dis, notre combat, c'est pour la paix. Et pour vivre comme toutes les peuples dans le monde entier.
Alors, il y a la pression qui peut s'exercer en solidarité directement sur le territoire palestinien-israélien, comme tu es en train de le dire. Et il y a peut-être aussi nécessité de créer de la solidarité internationale pour faire pression sur Israël, pour qu'enfin ils appliquent les droits dont chaque prisonnier a droit. Donc, comment ça se passe au niveau mondial, tu sais?
Au niveau mondial, il y a des partenaires. Je sais qu'il y a des partout maintenant, c'est en Londres, au Rome, Bruxelles, Genève, ça est en train de bouger partout dans le monde entier. J'espère que ça va grandir encore. Mais aujourd'hui, ça fait 20 jours de la grève de la faim. La situation, c'est super difficile. Même la situation de santé de la prisonnière politique, c'est super difficile. Marwan Barghouti, il est dangereux de mort maintenant. Elle refuse de voir reçoivent la médecin pour dire que j'accepte pas cette injustice. Alors j'espère qu'il va finir à bientôt. Mais moi, je demande à chaque personne qui nous entend aujourd'hui d'écrire sur leur Facebook, leurs réseaux sociaux. Il y a un hashtag qui s'appelle Hunger Strike, Dignity Hunger Strike. C'est un hashtag qui, il y a des 25 millions de personnes qui écrivent chaque jour sur cet hashtag sur Facebook et Twitter. Alors moi, je demande à chaque personne qui en entend, entrez dans cet hashtag, écrit pour la prisonnière politique. C'est très bien qu'ils écrit pour le monde entier. Ils savent notre combat, c'est que l'humanité, ils savent qu'est-ce qui se passe en Palestine, qu'est-ce qui se passe avec les prisonniers politiques.
Ok, et tu veux rajouter quelque chose ?
Je vous remercie infiniment pour votre solidarité.
Non, c'est normal, c'est normal. Bon courage à vous.
Voilà pour l'interview de Alaa al-Sharbati, donc le fils d'Eman al-Sharbati, prisonnier politique palestinien. C'était alors pour la petite histoire, enfin pour connaître son parcours personnel, c'était un homme affilié aux Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah. Il a été arrêté en 1998, donc il y a quasiment 20 ans, pour avoir mené une attaque à Jérusalem qui avait tué à l'époque un Israélien et en avait blessé un autre. Il fait partie donc de ces très nombreux, autour de 1500 grévistes de la faim actuellement dans les prisons palestiniennes. On va rester avec l'actualité des luttes de Fréquence Paris Pluriel. On va rester dans ce rassemblement Place de la République à Paris le 5 mai dernier avec une interview un peu plus longue d'une membre de la campagne internationale pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens. Alors Marwan Barghouti, on va repréciser pour les auditrices et auditeurs qui l'ignorent qui il est exactement. C'est un militant palestinien évidemment, un ancien dirigeant étudiant lors de la première intifada, c'était à la fin des années 1980. C'est un membre du Fatah, mais Fatah plutôt tendance de gauche, donc pas forcément grand chose à voir avec le Fatah qui actuellement tient l'autorité palestinienne. Il a été arrêté à Ramallah par les forces israéliennes le 15 avril 2002 et à l'époque il a été le tout premier parlementaire palestinien détenu, car il est effectivement député. Il est même président d'ailleurs du groupe d'amitié Palestine-France au Parlement palestinien. À l'époque, c'était donc le premier parlementaire palestinien détenu. Aujourd'hui, ils sont 13. Alors, Alaa al-Sharbati parlait de 14 tout à l'heure, mais enfin, bon, on va dire une grosse douzaine. Marwan Barghouti est actuellement condamné à 5 fois la prison à vie, 5 fois la perpétuité pour avoir commandité 5 meurtres, dont l'attentat du Seafood Market à Tel Aviv dans lequel 3 civils avaient perdu la vie. Il avait cependant été, il faut le préciser, acquitté de 21 autres chefs d'inculpation, essentiellement pour meurtre. Et il faut savoir également que lors de son procès à l'époque, Marwan Barghouti avait refusé de se défendre, ne reconnaissant pas la légitimité du tribunal israélien et affirmant être innocent de la totalité des chefs d'accusation portés contre lui. On va donc s'écouter toujours à Paris cette membre de la campagne internationale pour la libération de Marwan Barghouti.
Bonjour, je te laisse te présenter déjà.
Alors je suis Nohar Ashmaoui et je suis membre du comité international de libération de Marwan Barghouti et l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens. Donc aujourd'hui, si les Palestiniens dans les prisons israéliennes ont décidé de se mettre en grève, c'est pas un hasard et c'est pas simplement pour une amélioration quotidienne de leurs conditions de vie ou pour avoir la possibilité de téléphoner à leur famille ou d'avoir le droit
d'avoir des journaux, des visites, enfin ce qui est normal en fait.
D'avoir tout simplement le droit de l'application des conventions de Genève qui protègent et qui gèrent les prisonniers politiques dans un état de guerre. C'est pas que pour ça. C'est aussi pour ça, bien sûr, mais c'est pas que pour ça. Depuis des années, Israël pratique une politique d'isolement des prisonniers politiques. D'abord, en les emprisonnant à l'intérieur même de l'État d'Israël, ce qui empêche tout contact avec les membres de leur famille et avec la société palestinienne. C'est au bon gré de l'occupant de nous dire « vous avez le droit et un tel a le droit de visiter et un tel n'a pas le droit de visiter ». Donc, le fait qu'il a emprisonné ces 7000 En ce moment, c'est 7000 prisonniers palestiniens. Mais depuis 67 jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde vous l'a dit, il y a environ 1 million de Palestiniens qui ont passé dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, il reste encore 8 députés palestiniens dans les prisons. Et parmi les 8 députés, il y a Marwan Barghouti, qui est un visage emblématique de la société et de la résistance palestinienne. Donc aujourd'hui, si les prisonniers, ils ont dit ça suffit. Parce qu'Israël, à travers toute cette politique d'isolement et de pression, les empêcher de continuer leurs études, les torturer en les mettant dans les cellules d'isolement, à chaque fois qu'un prisonnier politique fait une déclaration à la presse, à travers son avocat, il est mis en isolement pendant des semaines, sans aucune visite, sans aucun contact avec la société extérieure. Donc, elle a essayé de les faire mourir à petit feu, de les tuer. Donc, du coup, ils n'avaient pas le choix. Et Israël a fait une démarche, et je pense que c'est peut-être ça qui était la mèche qui a allumé la volonté des prisonniers à réagir. C'est qu'au mois de juin dernier, l'année dernière, avec une délégation des maires des villes de réseau Marwan Barghouti, les villes françaises qui ont donné la citoyenneté d'honneur à Marwan Barghouti, nous avons décidé d'aller rendre visite à notre citoyen d'honneur en Israël. Nous avons demandé à l'ambassade d'Israël, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur israélien, nous avons envoyé des courriers dans les prisons, l'administration centrale, à tout le monde. Et dans la première prison, la prison de Hadarim, où Marwan Barghouti était emprisonné. Et juste la veille de notre départ, le Quai d'Orsay nous a dit « Vous n'y allez pas parce qu'ils vont vous refouler ». Donc nous avons décidé d'y aller et nous sommes allés. Et nous sommes allés et nous avons pris le bus et nous avons été devant la prison. Et entre-temps, ils l'avaient déplacé dans une autre prison. Et quand on est arrivé dans la deuxième prison, ils l'avaient déplacé déjà dans une troisième prison. Donc Marwan a eu l'occasion de sortir de son cachot, en fait, de la prison où il était isolé. Et il est allé dans 3 prisons où il s'est rendu compte de la situation. Et il a eu la discussion avec ses camarades prisonniers dans les autres prisons. Et là, il a vu qu'il y avait un ras-le-bol. Et ils ont décidé ensemble, ils ont demandé d'organiser un mouvement de résistance. Et ce mouvement de résistance a été pris, une décision commune de l'ensemble des prisonniers en disant, si on démarre aujourd'hui, on n'arrêtera pas, on va jusqu'au bout. Et donc, c'était la seule décision et la seule raison pour laquelle ils ont décidé de se mettre en grève. Et aujourd'hui, la grève, comme vous l'avez vu hier, par exemple, avec Ahmed Saadat, le dirigeant de FPLP, parce que là, Israël essaye, depuis le début de la grève, d'isoler les grévistes, isoler la direction du mouvement et de négocier avec l'un contre l'autre et en donnant des avantages à l'un. Mais nous, on ne va pas demander la charité à l'occupation et au service pénitentiaire de l'occupant. C'est un état d'apartheid, c'est un état de contre le droit international, contre toutes les résolutions de la communauté internationale. Et ils veulent que nous, les Palestiniens, et surtout la résistance qui se sait qu'il est condamné à mort s'il reste dans le silence dans les prisons israéliennes. Donc, ils n'avaient absolument pas le choix que de résister et de lever leur voix. Donc, l'ensemble des grévistes ont décidé de dire nous serons en grève jusqu'au bout, jusqu'au jour où Marwan Barghouti et Marwan Barghouti tout seul, c'est lui qui nous appellera et nous dira ça y est, on a gagné, stop. Et donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, et hier Ahmed Saadat l'a dit, le seul qui est capable de donner le mot d'ordre, de dire on arrête, c'est Marwan Barghouti. Il y a une seule direction. Et donc c'est ça qui est en train de déstabiliser peut-être un peu Israël. J'ai dit un peu parce qu'on n'a pas fait assez de pression. Et là, j'en viens à ta deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici ? Nous, c'est vital qu'on bouge. Nous, c'est vital qu'on fasse entendre la voix des prisonniers. Parce que, comme tu vois, le silence total. Les avocats ne peuvent pas aller les voir. La Croix-Rouge, je me demande ce qu'ils foutent. La Croix-Rouge, parce que c'est leur rôle d'aller rendre visite aux prisonniers. Ils ne le font pas.
Amnesty International aussi.
Amnesty International, absolument. Alors, il y a Amnesty International qui a fait des déclarations. Il y a des déclarations. Il y a y compris, Israël a trouvé, je ne sais pas quel porte-parole de la Croix-Rouge qui a dit qu'absolument pas, les prisonniers palestiniens, ils sont super bien traités, ils sont vraiment au paradis. Je te promets que
c'est un aveugle et un sourd.
D'ailleurs, je n'ai pas vu son nom, mais ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, je pense que la communauté internationale et le gouvernement français en premier, parce que quand même, n'oublions pas que nous sommes dans un pays de résistance, dans un pays qui a fait la résistance contre l'occupation et que jusqu'aujourd'hui, on fait la gloire à la résistance française. Donc dans un pays où la Révolution française, les droits de l'homme, toutes les valeurs universelles de la liberté, les l'égalité, la fraternité, ils viennent d'ici. Et nous, en Palestine, nous avons besoin de la voix de la France et la voix de cette résistance, la voix de cette fraternité, de cette humanité. Et donc, effectivement, en faisant pas simplement des paroles, mais y compris faisant des sanctions contre un état d'apartheid. L'Afrique du Sud et Mandela n'a été libéré que parce qu'il y a eu une mobilisation internationale contre l'apartheid. Donc aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'effectivement, la France met son habit de résistant, met son habit de pays de droits de l'homme et que dit à Israël, ça suffit, les prisonniers politiques palestiniens, il faut les traiter comme des prisonniers politiques, d'abord en les ramenant dans les territoires palestiniens pour que les familles n'ont pas besoin d'attendre des mois et des mois et souvent ne même pas avoir l'autorisation d'aller rendre visite à leur famille. Donc il faut les ramener sur le territoire de l'État de Palestine et les traiter comme des prisonniers de guerre et après, et donc bien sûr que les libérer, parce que si tout le monde nous dit il faut la paix avec l'ennemi, et effectivement on peut faire la paix qu'avec son ennemi parce qu'avec ses amis ça va bien. Donc si on veut faire la paix avec Israël, le seul qui est capable aujourd'hui d'unifier, d'ailleurs il l'a prouvé, le seul qui est capable d'unifier la rue palestinienne, il l'a fait déjà depuis sa prison en 2007 en faisant ce qu'on appelle le document des prisonniers, où il y a l'ensemble des factions palestiniennes qui sont unifiées pour faire un appel à l'unité nationale, parce que c'est ça qui est en train de nous tuer en Palestine. C'est qu'Israël a réussi par tous les moyens, les pressions et tout ce qu'on veut à diviser la société palestinienne. Et effectivement, il y a l'islam politique, il y a la religion qui est devenue un moteur, alors que c'est loin de là, parce que nous revendiquons un État laïque. Nous revendiquons un État laïque en Palestine. Alors, Israël demande un État juif. Moi, on nous dit que c'est un État démocratique. Bah, pour moi, démocratie et religion, ça ne va pas ensemble. Voilà.
Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Courage.
En Cisjordanie aussi, il y a eu des mouvements de grève en soutien au mouvement des prisonniers actuels. Est-ce que tu peux nous en parler aussi ?
Alors oui, effectivement. De toute façon, quand je dis que avant de déclarer la grève, les prisonniers se sont réunis, ils ont planifié tout leur mouvement de grève. Parmi les planifications de mouvement de grève, c'est qu'il y avait des rassemblements, des tentes de rassemblement dans toutes les villes palestiniennes et avec des mouvements de grève de la faim dans ces tentes-là. Il y a des familles, les familles des prisonniers, ils se réunissent. Beaucoup parmi eux, ils font la grève de la faim. Ça, c'est en Palestine. Et il y a eu une grande manifestation de solidarité à Ramallah le 3 mai. C'était un appel du comité de libération des prisonniers sur place, mais adressé à l'ensemble de la communauté internationale. Donc du coup, en Palestine, il y a eu, et il y a tous les jours, il y a tous les jours d'abord des gens qui rejoignent ces tentes de résistance et qui se mettent en grève. En Jordanie, il y a eu un grand mouvement de grève. Au Maroc, hier, il y avait un grand rassemblement, une grande manifestation de solidarité avec les prisonniers. Partout dans le monde, le 3 mai, c'était un appel international pour unifier. Mais tous les jours, il y a des grèves de la faim. Tous les jours, il y a des manifestations, des affrontements avec l'armée. Hier, à Hébron, il y a eu des blessés, il y a des manifestations. Et je pense qu'Israël, aujourd'hui, elle est en train de vraiment d'allumer un feu. Elle ne sait pas. De toute façon, on n'a rien à perdre. Tu sais, comme a dit quelqu'un, Marx, en l'occurrence, elle avait dit, les travailleurs n'ont que leur chaîne à perdre. Nous, les Palestiniens, on n'a rien à perdre. On n'a même pas de chaîne parce qu'ils nous enchaînent sans des chaînes véritables. On est enchaînés complètement dans ce pays et avec le silence de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, de toute façon, ou on résiste, ou on bouge, ou on se fait entendre et on gagne, sinon la mort. De toute façon, il n'y a pas.
C'est comme tu disais aussi que dans chaque famille, il y a un prisonnier. Donc les gens sont concernés. Il y a eu un prisonnier ou il y a un prisonnier au minimum, ou il y aura un prisonnier. Et donc les gens sont vraiment concernés au premier plan par cette grève. Et c'est Naftali Bennett, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc qui est le ministre de l'éducation d'extrême droite d'Israël, qui a dit on va faire une stratégie comme à la Thatcher, comme ce que Thatcher a fait avec les grévistes de la faim irlandais avec Bobby Sands, on va les laisser mourir. Et il faut se rendre compte que s'ils font ça, il y a beaucoup de gens qui disent on pourrait aller vers une troisième intifada ou quelque chose comme ça, comme tu disais, ça mettrait le feu aux poudres parce que les gens sont concernés directement, c'est leurs familles qui sont aujourd'hui en grève de la faim, quoi.
Absolument. Et puis, de toute façon, et c'est vrai que ça, c'est tout à fait d'accord. Et la preuve, Felice Salinger, qui était l'avocate des prisonniers politiques palestiniens en Israël. C'est une Israélienne, une avocate, et qui a fini par quitter Israël parce qu'elle a été menacée de mort, elle et toute sa famille, et elle s'est réfugiée en Allemagne. C'est l'ironie de l'histoire, quitter Israël pour se réfugier en Allemagne pour sa sécurité quand on est juif et quand on a sa famille qui a été massacrée par les nazis en Allemagne. Et Felicia Langer, j'étais en train de chercher le message qu'elle nous a envoyé et qu'on a traduit. C'est un message de soutien et de décision pour les prisonniers. Voilà. Donc, comme je disais, Felicia Langer qui lance un appel à la communauté internationale pour intervenir pour sauver la vie des prisonniers politiques palestiniens. Felicia Langer, elle est aujourd'hui présidente d'honneur de l'Union européenne pour le soutien des prisonniers de la Palestine. Et donc, sa déclaration, elle date de 2 mai. Elle dit depuis 16 jours, plus de 1500 prisonniers vivent sur le sel et l'eau. Ces prisonniers réclament des droits compatibles avec les exigences de droit international et les conventions de Genève. Leur exigence, faire cesser la torture et les mauvais traitements des prisonniers, mettre fin à la détention administrative, garantir le contact avec les avocats, des visites périodiques pour leurs familles et assurer le contact téléphonique, en plus leur droit à l'éducation et aux soins de santé. Je lance mon appel au gouvernement allemand et à tous les gouvernements européens, ainsi qu'au Parlement européen, leur demandant de faire pression sur le gouvernement israélien jusqu'à ce qu'il conforme au droit international et aux conventions de Genève. Je lance un appel à ne pas garder le silence sur cette répression en cours, sinon vous devenez complice de tels crimes.
Je te remercie beaucoup. Bon courage.
Vous écoutez le magazine de Canal Sud et voilà donc pour cette interview d'une membre de la campagne internationale pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens. On parle évidemment de la grève de la faim qui dure depuis maintenant 36 jours, grève de la faim menée par plus de 1000 et très certainement plus même de 1500 prisonniers palestiniens. C'est en ce moment que ça se passe. Alors on l'a entendu un peu dans cette interview, on l'a compris. Hein. D'abord la prison occupe une place très importante chez les Palestiniens et chez les Palestiniennes dans leur vie. Hein. Tout le monde connaît des membres ou de sa famille ou des amis qui sont passés par la case prison ou qui y sont actuellement. Surtout, ce qui est très important, c'est que le mouvement des prisonniers, les prisonniers sont en lutte depuis très longtemps en Israël. Ils sont une composante essentielle de la lutte pour la libération du peuple palestinien. Et surtout, on l'a entendu avec cette histoire de documents des prisonniers palestiniens datant de 2007, dont parlait cette dame, c'est un des rares terrains de la lutte où les différentes factions, où les personnes qui luttent pour une Palestine libre peuvent se retrouver unies. Hein. La Palestine est extrêmement divisée et le seul endroit où cette division est moindre, voire des fois même s'efface complètement, c'est dans les prisons palestiniennes. Et donc Marwan Barghouti, qui est extrêmement populaire, que ce soit en prison ou en dehors des prisons, c'est évidemment un symbole très fort de la lutte des Palestiniens, et c'est un symbole très fort pas seulement pour les membres du Fatah. Et ça c'est extrêmement important à comprendre, d'abord parce que ça explique pourquoi il est un petit peu là en pointe sur cette lutte-là, et ça explique aussi pourquoi il est ciblé très spécifiquement par les autorités israéliennes, qui essayent vraiment de le casser, de casser son image, avec certainement l'idée que si Barghouti tombe, eh bien le mouvement actuel tombera également. Mais Barghouti ne tombe pas. Alors il faut savoir qu'ils ont par exemple diffusé des images où on le voyait en train de manger, soi-disant qu'il était en train de casser sa grève de la faim. Ça a été totalement contesté. Et alors il a pu voir là à la mi-mai enfin son avocat. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à voir son avocat récemment là, parmi les grévistes de la faim, mais Barghouti y est parvenu. C'est quand même une figure importante. Et il a vu donc son avocat qui s'appelle Kader Shkirat et qui Kader Shkirat a indiqué que évidemment son client niait totalement l'authenticité de cette vidéo hein, qui a été, il faut le dire, diffusée par le service des prisons d'Israël hein, donc on peut tout à fait remettre en cause leur honnêteté et il précise que la cellule qu'on voit dans la vidéo avec un lit superposé était bien plus agréable que la cellule avec un simple lit délabré qu'il occupe actuellement. Il faut savoir que Barghouti est un isolement, hein, donc évidemment, ils peuvent mentir comme ils veulent. Hein. L'avocat a précisé que Barghouti avait perdu 13 kilos, donc ça c'était le 14 mai à peu près, depuis le début de sa grève de la faim. Mais il est peu dissuadé par la détérioration de son état de santé et il a déclaré à son avocat qu'il intensifiait actuellement ses protestations et qu'il refuserait très prochainement de boire de l'eau. Alors c'est peut-être le cas déjà. Il a également produit une lettre qui a été publiée par le média libanais Al-Mayadin, dans laquelle il ordonne à la population d'accroître les tensions avec Israël par solidarité avec les détenus en grève de la faim. Et il a également promis de continuer la lutte pour la liberté et la dignité de la Palestine jusqu'à ce que les objectifs des prisonniers soient accomplis. Voilà, et évidemment, il a souligné que toutes les tentatives des autorités israéliennes pour le faire chanter ne feraient qu'augmenter sa croyance et notre croyance en la victoire. Voilà pour les dernières nouvelles un peu directes qu'on a de Marwan Barghouti. On vous rappelle que ce soir, pour les Toulousains, Toulousaines, il y a un rassemblement de 18h à 20h au métro Jean Jaurès, sur les allées Roosevelt, hein, voilà, du côté du métro Jean Jaurès, rassemblement de soutien à la lutte des prisonniers palestiniens. Pour être tout à fait complet, on va aussi préciser que Trump arrive demain en Israël, ce qui n'est pas pour calmer le jeu, hein, pour le moment, et ce qui même a plutôt tendance à accentuer la pression, et notamment la pression sur les prisonniers et les prisonnières palestiniens en lutte. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on vous redonne toujours les mêmes sites, hein, le site en anglais du réseau international de solidarité avec les prisonniers palestiniens, c'est le site de Samidoun, samidoun.net. Plus près de nous, vous pouvez aussi aller voir le site du collectif anti-impérialiste Coup pour Coup 31, coup pour coup 31.com. Vous pouvez aller également voir du côté évidemment des sites de la campagne BDS et de l'agence Média Palestine. Là, ce sont des sites en français, les trois derniers que j'ai cités.